Chapitre 3. Swedenborg et la Sibylle. Je puis reprendre mon récit au point où je l'ai laissé dans le premier chapitre. Marie et moi, vous vous le rappelez, nous avions laissé le régisseur seul auprès du leurre et nous nous étions dirigés ensemble vers le cottage de Dermodet. En approchant de la porte du jardin, j'aperçus un domestique de la maison qui attendait. Il était chargé d'un message pour moi de la part de ma mère. « Ma maîtresse vous prie, maître Georges, de revenir à la maison le plus tôt possible. Il est arrivé une lettre par la voiture. Mon maître compte prendre une chaise de poste à Londres et il nous prévient que nous pouvons l'attendre dans la journée. » Le visage attentif de Marie s'assombrit à ces paroles. « Faut-il réellement que vous vous en alliez, Georges ? » murmura-t-elle. « Avant d'avoir vu ce qui vous attend chez nous ?» Je me rappelais la promesse de Marie, d'une surprise dont le secret ne devait m'être révélé que lorsque nous serions arrivés au cottage. Pouvais-je la désappointer? Ma pauvre petite amoureuse paraissait prête à pleurer devant cette simple perspective. Je renvoyai le domestique avec une réponse conciliante, mes tendresses à ma mère et la promesse d'être à la maison dans une demi-heure. Nous entrâmes dans le cottage. Dame Dermodet était assise, comme d'habitude, à la lumière de la fenêtre, avec un des livres mystiques d'Emmanuel Swedenborg, ouvert sur ses genoux. À notre entrée, elle leva solennellement la main pour nous signifier d'avoir à occuper notre coin habituel sans lui parler. C'était un acte de haute trahison domestique que d'interrompre la Sibylle dans ses lectures. Nous gagnâmes tranquillement nos places. Marie attendit que sa grand-mère eût abaissé sa tête grise et que ses sourcils touffus se fussent contractés sous l'attention qu'elle prêtait à sa lecture. Alors, et seulement alors, la discrète enfant se leva sur la pointe des pieds et disparut sans bruit dans la direction de sa chambre à coucher. Puis elle revint vers moi en portant quelque chose, soigneusement enveloppé dans son plus beau mouchoir de batiste. « Est-ce là la surprise ? » murmurai-je. Marie me répondit tout bas, « Devinez ce que c'est. Quelque chose pour moi ? Oui, devinez. Qu'est-ce que c'est ?» Je devinais trois fois et trois fois je me trompais. Marie se décida à m'aider par une indication. « Appelez vos lettres, me dit-elle, et allez jusqu'à ce que je vous arrête. » Je commençais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Là, elle m'arrêta. « C'est le nom d'un objet, me dit-elle, et il commence par un P. » Je devinais. Pavot, plume, pipeau. Et là, ma perspicacité me fit défaut. Marie soupira et hocha la tête. « Vous ne vous donnez pas de mal, dit-elle. Vous avez 3 ans de plus que moi, et après toute la peine que j'ai prise pour vous plaire, vous allez sans doute vous trouver trop grand pour vous soucier de mon cadeau quand vous le verrez. Devinez encore. » Je ne puis deviner. Il le faut. J'y renonce. Marie refusa de me laisser renoncer. Elle m'aida par une nouvelle indication. Qu'avez-vous dit un jour que vous désiriez avoir dans votre bateau ? Me demanda-t-elle. Y a-t-il longtemps de cela ? Lui dis-je à court d'une réponse. Oui, très longtemps, avant l'hiver, lorsque les feuilles d'automne tombaient et que vous m'aviez emmené promener sur l'eau. Ah, Georges, vous l'avez oublié ? Ce n'est que trop vrai pour moi et mes frères. Vieux ou jeunes, c'est tout un. C'est toujours son amour à lui qui oublie et son amour à elle qui se souvient. Nous n'étions que 2 enfants, mais nous représentions déjà les types de l'homme et de la femme. Marie perdit patience. Oubliant la terrible présence de sa grand-mère, elle bondit et arracha du mouchoir l'objet qu'il cachait. « Voilà ! » s'écria-t-elle vivement. « Et maintenant, savez-vous ce que c'est ?» La mémoire me revint enfin. Ce que j'avais désiré pour mon bateau, quelques mois auparavant, c'était un pavillon neuf. Et ce pavillon, il était là, confectionné en secret pour moi par les mains de Marie. Le champ en était de soie verte, avec une colombe brodée dessus en blanc, et qui portait la branche d'olivier symbolique, exécutée en fil d'or. C'était l'œuvre indécise et tremblée des doigts d'une enfant. Mais comme ma petite chérie s'était rappelée fidèlement mon désir, avec quelle patience elle avait appliqué l'aiguille sur les lignes indicatives du patron, comme elle avait laborieusement travaillé pendant les tristes journées d'hiver, et tout cela pour l'amour de moi. Quels mots pourraient peindre mon orgueil, ma reconnaissance, mon bonheur ? Oubliant à mon tour la présence de la Sibylle penchée sur son livre, je saisis ma petite ouvrière dans mes bras et je l'embrassai jusqu'à ce que la laine me manquât et que je ne pusse plus continuer. « Marie ! » m'écriai-je dans le premier feu de mon enthousiasme. « Mon père arrive aujourd'hui, je vais lui parler ce soir et je vous épouserai demain. »« Enfant ! » dit une voix imposante à l'autre bout de la chambre. « Venez ici !» Le livre mystique de Dame d'Hermodet était fermé. Les yeux noirs fatidiques de Dame d'Hermodet nous épiaient dans notre coin. Je m'approchai d'elle et Marie me suivit timidement, pas à pas. « Faites-vous cas de ce jouet ?» me demanda-t-elle en regardant le pavillon. « Cachez-le » s'écria-t-elle avant que j'eusse pu répondre. « Cachez-le ou bien on vous le prendra !»« Pourquoi le cacherai-je » lui demandai-je. « J'entends l'arborer au mât de mon bateau. » « Vous ne l'arborerez jamais au mât de votre bateau !» Et en parlant, elle me prit le pavillon et le fourra avec impatience dans la poche de côté de ma veste. « Ne le chiffonnez pas, grand-mère !» dit Marie plaintivement. Je répétai ma question. « Pourquoi ne l'arborerai-je jamais au bas de mon bateau ?» Dame d'Hermodet posa la main sur le volume de Swedenborg fermé sur ses genoux. « J'ai ouvert trois fois ce livre depuis ce matin, » dit-elle. « Trois fois, les paroles du prophète m'ont averti qu'un malheur approchait. « Enfant, c'est pour vous que le malheur approche. Si je regarde là, » dit-elle, en désignant l'endroit par lequel un rayon de soleil pénétrait obliquement dans la chambre, « j'aperçois mon mari dans la lumière céleste. Il incline la tête avec tristesse et dirige sa main infaillible vers vous. Georges et Marie, vous êtes consacrés l'un à l'autre. Soyez toujours dignes de cette consécration, soyez toujours dignes de vous-même. » Elle s'arrêta, sa voix trembla. Elle nous considéra avec des yeux attendris, comme font ceux qui prévoient tristement qu'ils vont être séparés. « Agenouillez-vous, » dit-elle à voix basse et d'un ton lugubre et triste. « C'est peut-être la dernière fois que je vous bénirai, c'est peut-être la dernière fois que je prierai pour vous dans cette maison. Agenouillez-vous. » Nous nous mîmes à genoux à ses pieds. Je sentais les battements du cœur de Marie à mesure qu'elle se pressait contre moi. Je sentais mon propre cœur précipiter ses palpitations sous l'empire d'une terreur mystérieuse pour moi. « Que Dieu bénisse et garde Georges et Marie dans le présent et dans l'avenir. Que Dieu favorise dans l'avenir l'union que la sagesse de Dieu a décidée. Amen, ainsi soit-il. Amen. » Au moment même où ces derniers mots tombaient de ses lèvres, la porte du cottage s'ouvrit avec fracas. Mon père entra dans la chambre, suivi du régisseur. Dame d'Hermodet se dressa lentement sur ses pieds et le regarda d'un œil scrutateur. « Le malheur est venu, » se dit-elle à elle-même. « Il regarde par les yeux, il va parler par la voix de cet homme. » Mon père rompit le silence qui suivit ses paroles en s'adressant au régisseur. « Vous le voyez, d'Hermodet, » dit-il, « voici mon fils chez vous, alors qu'il devrait être chez moi. » Il se retourna et me vit le bras passé autour de la taille de la petite Marie et attendant patiemment l'occasion de parler. « Georges, » dit-il avec le sourire sardonique qui lui était habituel lorsqu'il était en colère et qu'il cherchait à le dissimuler, « vous faites le saut ici, quittez cet enfant et venez avec moi. » C'était le moment ou jamais de me montrer. En juger par l'apparence, j'étais encore un enfant. En juger par mes propres sensations, j'étais devenu un homme instantanément. « Papa, » dis-je, « je suis heureux de vous voir de retour. Voici Marie d'Hermodet. Je l'aime et elle m'aime. Je désire l'épouser aussitôt que cela vous conviendra, à ma mère et à vous. » Mon père éclata de rire, mais son humeur changea avant qu'il eût repris la parole. Il avait remarqué que d'Hermodet, lui aussi, se permettait de rire. Il parut devenir fou de colère en ce moment. On m'avait parlé de cette infernale sottise, dit-il, mais je n'avais pu y croire. Qui donc a troublé la faible tête de ce garçon? Qui donc l'a encouragé à embrasser ainsi cette petite fille? Si c'était vous, Dermody, ce serait bien la pire action de votre vie. » Il se tourna de nouveau vers moi avant que le régisseur eût pu se défendre. « M'entendez-vous? Je vous dis de quitter la fille de Dermody et de revenir à la maison avec moi. » « Oui, papa, répondis-je, mais je reviendrai trouver Marie, s'il vous plaît, après avoir été avec vous. » Malgré sa colère, mon père fut positivement stupéfait de mon audace. « Jeune idiot ! S'écria-t-il, votre insolence dépasse toute croyance. Je vous déclare que vous ne repasserez jamais cette porte. On vous a surpris à désobéir ici. On vous a mis en tête des choses qu'un garçon de votre âge devrait ignorer, je dirais plus, des choses que des personnes honnêtes n'auraient pas voulu vous apprendre. « Je vous demande pardon, monsieur, » dit Dermody, en l'interrompant très respectueusement, mais très fermement à la fois. Il est certaine chose qu'un maître en colère a le droit de dire à l'homme qui le sert, mais vous avez outrepassé votre droit. Vous m'avez diffamé, monsieur, en présence de ma mère et à la portée de l'oreille de mon enfant. » Mon père l'arrêta là. « Vous pouvez vous épargner le reste, dit-il. Nous ne sommes plus ni maîtres ni serviteurs. Lorsque mon fils venait flâner autour de votre cottage et jouer à l'amoureux avec votre fille, votre devoir était de lui fermer la porte au nez. Vous avez manqué à votre devoir. Je n'ai plus confiance en vous. Je vous donne congé un mois d'avance, Dermody. Vous quitterez mon service. » Le régisseur fit face à mon père sur son propre terrain. Ce n'était plus l'homme facile, doux et modeste de mes souvenirs. « Je refuse votre congé en mois d'avance, monsieur, répondit-il. Vous n'aurez plus l'occasion de répéter ce que vous venez de me dire. Je vous enverrai mes comptes ce soir et je quitterai votre service demain. » « Nous nous entendons cette fois, répliqua mon père. Plus tôt vous partirez et mieux cela vaudra. » Il traversa la chambre et posa la main sur mon épaule. « Écoutez-moi, dit-il en faisant un dernier effort pour se maîtriser. Je ne veux pas me quereller avec vous devant un domestique congédié. Finissons-en avec cette niaiserie. Laissez faire leur paquet et partir ces gens-là et revenez à la maison avec moi. » Sa lourde main, appuyée sur mon épaule, semblait expulser de moi l'esprit de résistance. Je cédai jusqu'à tenter de l'attendrir par des supplications. « Oh, papa, papa, m'écriai-je, ne me séparez pas de Marie. Voyez comme elle est bonne et jolie. Elle m'a fait un pavillon pour mon bateau. Permettez-moi de venir la voir ici quelquefois. Je ne puis vivre sans elle. » Je ne pus en dire davantage. Ma petite Marie éclata en sanglots. Ses larmes et mes supplications furent également impuissantes à toucher mon père. « Choisissez, dit-il, entre partir de bonne grâce ou m'obliger à vous emmener de force. J'entends vous séparer de la fille de Dermody. » « Ni vous, ni personne ne peut les séparer, » s'écria une voix derrière nous. « Chassez de votre esprit cette pensée, maître, avant qu'il soit trop tard. » Mon père se retourna vivement et aperçut Dame Dermody lui faisant face en pleine lumière de la fenêtre. Elle s'était retirée au début de la dispute dans le coin derrière le foyer. Elle y était restée, attendant l'instant de parler, jusqu'au moment où la dernière menace de mon père vint la tirer de sa retraite. Ils se regardèrent l'un et l'autre quelque temps. Mon père parut penser que lui répondre serait au-dessous de sa dignité. Il poursuivit ce qu'il avait à me dire. « Je vais compter jusqu'à trois lentement, » reprit-il. « Décidez-vous, avant que j'arrive à ce dernier nombre, à m'obéir ou à subir la honte d'être emmené de force. »« Emmenez-le où vous voudrez, » dit Dame Dermody. « Il n'en sera pas moins sur la voie de son mariage avec ma petite fille. » « Et où serai-je, moi, s'il vous plaît ?» demanda mon père, forcé de lui parler cette fois. La réponse suivit immédiatement par ces paroles foudroyantes. « Vous serez sur la voie de votre ruine et de votre mort. » Mon père tourna le dos à la prophétesse avec un sourire de mépris. « Un, » dit-il en commençant à compter. Je serrai les dents et j'entourai Marie de mes deux bras pendant qu'il parlait. J'avais hérité quelque peu de son caractère et il allait l'apprendre maintenant. « Deux !» poursuivit mon père après un moment d'attente. Marie avança ses lèvres tremblantes de mon oreille et murmura « Lâchez-moi, Georges, je ne puis supporter ce spectacle. Oh, voyez comme il fronce les sourcils. Je sens qu'il va vous faire mal. » Mon père leva son index comme un avertissement préalable avant de compter trois. « Arrêtez !» s'écria Dame d'Hermodée. Mon père se retourna de nouveau vers elle avec un étonnement sardonique. « Je vous demande pardon, madame. Avez-vous quelque chose de particulier à me dire ?» lui demanda-t-il. « Homme, répliqua la Sibylle, vous parlez légèrement. Vous ai-je parlé légèrement, à vous ? Je vous engage à plier votre volonté perverse devant une volonté plus puissante que la vôtre. Les âmes de ces enfants sont des âmes sœurs. Ils sont unis l'un à l'autre dans le présent et dans l'éternité. Placés entre eux la terre et la mer, ils n'en seront pas moins ensemble. Ils communiqueront entre eux par des visions, ils se révéleront l'un et l'autre en songe. Enchaînez-les par des liens mondains, mariez votre fils plus tard à une autre femme et ma petite fille à un autre homme. En vain, je vous le dis, en vain. Vous pourrez les condamner au malheur, vous pourrez les pousser au péché. Le jour de leur union sur la terre n'en sera pas moins prédestiné dans le ciel. Il arrivera, il arrivera. Soumettez-vous pendant que l'heure de la soumission vous appartient. Vous êtes un homme condamné. Je distingue l'ombre du malheur, je vois le sceau de la mort sur votre visage. Partez et laissez ces deux êtres consacrés poursuivre ensemble les sombres voies du monde dans la force de leur innocence à la lumière de leurs amours. Partez et que Dieu vous pardonne. » En dépit de lui-même, mon père fut frappé de la force irrésistible de conviction qui animait ses paroles. La mère du régisseur l'impressionna comme aurait pu le faire une tragédienne sur la scène. Elle chassa de ses lèvres le sourire moqueur, mais elle n'ébranla pas sa volonté de faire. Son visage était aussi rigide que jamais lorsqu'il se retourna vers moi. « La dernière chance, Georges, » dit-il, et il compta le dernier nombre. « Trois. » Je ne bougeai ni ne lui répondis. « Vous le voulez ?» dit-il en me saisissant par le bras. J'étreignis plus fortement Marie et je lui dis tout bas « Je ne vous quitterai pas. » Elle ne parut pas m'entendre. Elle tremblait de la tête aux pieds dans mes bras. Un faible cri de terreur s'échappa de ses lèvres. D'Hermodée s'avança à l'instant. Avant que mon père eût pu m'arracher d'auprès d'elle, il me dit à l'oreille « Vous pouvez me la confier à moi, maître Georges. » Et il dégagea son enfant de mon étreinte. Elle étendit tendrement ses petites mains grêles vers moi dès qu'elle se retrouva dans les bras de D'Hermodée. « Adieu, chérie » dit-elle faiblement. Je vis sa tête se pencher sur la poitrine de son père pendant que l'on m'entraînait vers la porte. Dans ma rage impuissante et ma douleur, je luttai contre les mains cruelles qui m'avaient saisi avec toute la force qui me restait. Je lui criai « Je vous aime, Marie. Je reviendrai près de vous, Marie. Je n'épouserai jamais que vous. » Pas à pas, je fus entraîné plus loin et plus loin encore. La dernière fois que je l'aperçus, la tête de ma chérie reposait sur la poitrine de D'Hermodée. Sa grand-mère, debout près d'elle, menaçait mon père de ses mains décharnées et elle hurlait sa terrible prophétie avec la fureur hystérique qu'il avait saisie lorsqu'elle avait vu s'accomplir notre séparation. « Partez ! Vous marchez à la ruine, vous marchez à la mort !» Sa voix vibrait encore à mon oreille lorsque la porte du cottage s'ouvrit et se referma. Tout était fini. L'humble monde de mon amour et de mon bonheur enfantin disparut comme la vision d'un songe. Le stérile désert extérieur qui composait le monde de mon père s'ouvrit devant moi, vide d'amour et vide de joie. Que Dieu me pardonne la haine que je ressentis pour mon père à cet instant !»